Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 9e épisode, épisode numéro 8. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine Grégoire, qui êtes-vous?
Bonjour, je suis Pierre-Antoine Grégoire et je suis là.
Merci Pierre-Antoine Grégoire. Je suis aussi accompagné de Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous?
Bonjour tout le monde, je suis dev chez Clever et je fais un petit peu de tout aussi au passage, tout ce qui touche au DB, stockage, etc.
Merci. Et aujourd'hui, nous avons un special guest, puisque nous inaugurons les invités avec Monsieur Nicolas Elringer. Bonjour Nicolas Elringer, qui êtes-vous?
Bonjour, bonjour Clever Cloud. Je m'appelle donc Nicolas Elringer et je suis responsable du pôle SRE dans la R&D de Criteo.
Merci. Alors, sans plus attendre, on y va. On commence avec un lien très actu, la fin du Privacy Shield. Qui est un lien que j'ai ajouté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Europe, on a un truc qui s'appelle la GDPR ou le RGPD, je ne sais plus, la GDPR ou le RGPD, voilà.
C'est ça.
Et que il y avait eu des accords de signer. Le premier, c'était le Safe Harbor de mémoire, qui expliquait que les Américains devaient avoir un niveau de traitement de données privées à peu près équivalent ou en tout cas en accord avec ce que l'Europe voulait. Le Safe Harbor a été giclé casu manu militari quand ils l'ont proposé, et ensuite est venu le Privacy Shield, et là ça a duré plus longtemps, on y va pas, a priori on y va, et la semaine dernière la Cour de justice européenne a dit on n'y va pas, du tout. Ce qui veut dire que y a un certain nombre de garanties qui étaient données par les boîtes américaines et par les gens qui respectaient le Privacy Shield pour le traitement des données personnelles des gens qui, en fait, ne sont pas des garanties selon la Cour de justice européenne. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, tous?
Ce qui est intéressant à regarder, c'est la motivation. C'est pourquoi la justice européenne annule l'accord. Est-ce que c'est parce qu'il l'estime trop protecteur ou trop ou pas assez, dans l'autre sens? Et c'est quoi l'intention? Est-ce qu'ils veulent quelque chose de plus important, qui respectent, qui mettent plus de barrières légitimes sur le transfert entre les deux entités, ou est-ce qu'ils veulent plus de liberté? C'est-à-dire, c'est maintenant que la décision est prise de dire non, on n'est pas d'accord avec soi, c'est pour aller vers quoi?
C'est Max Schrems, qui est un Autrichien, qui a fondé une entreprise sur le droit à la vie privée sur Internet, qui, je crois, était à l'origine des plaintes là-dessus. Donc, clairement, ça s'oriente sur c'est bien, mais pas suffisant. Et apparemment, il y a plus de garanties.
Alors après, le truc, c'est que annuler un accord, c'est à la fois, ça empêche qu'il s'applique et qu'on n'ait pas suffisamment de garanties, mais ça aussi enlève les garanties qui étaient déjà dedans, quoi.
Voilà. Du coup, en ce moment, on est dans un espèce de milieu où…
Un peu comme au début des annonces de la RGPD et des mises en application très rapides, on est à la fois dans une phase de déni, je pense, pour la plupart des gens qui fournissent des services basés là-dessus. Des clients qui avaient accepté entre guillemets ce deal qui d'un coup saute, et quand c'est dit c'est à partir, en gros moi ce que j'ai vu passer c'était c'est applicable et puis dès demain globalement, comment dire, c'est quoi les mesures qui sont prises en face, quoi, parce que je vois pas tous les gens qui utilisent des services US les faire sauter du jour au lendemain tant qu'il n'y a pas une vision de l'alternative, quoi, ou de ce qu'on en fait plutôt, c'est-à-dire ou à la limite des sanctions qui sont prises, même, parce qu'il y a peut-être des gens qui, il y a toujours des gens qui sont prêts à payer les sanctions en fonction de la balance coût-bénéfice.
Ce qui est humain et normal dans le fonctionnement d'une société. Hein.
C'est-à-dire le temps de t'ajuster, tu dois juste essayer de savoir quoi ce que ça va te coûter en attendant, quoi. C'est à peu près normal. Hein.
C'est assez logique.
Ouais. Dit autrement, plus t'as de la thune et plus tu peux être plus permissif entre guillemets que les gens qui n'ont pas.
Tu peux pas non plus mettre ça dans un fonds perdu avec aucune perspective de revenir sur tes investissements, quoi.
C'est complètement.
C'est clair.
Complètement.
C'est clair. Non, le problème dans tout ça, c'est le côté incertitude. Il y avait quelque chose. On peut être d'avis que c'était suffisant, pas suffisant, bien, pas bien. Chacun pense ce qu'il en veut. Par contre, quand la Cour de justice arrive et annule le truc, tu dis genre, et AJ+1, qu'est-ce qui se passe? Et vers quoi on se dit?
Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Absence de jurisprudence, qu'est-ce que tu fais par rapport à l'extraterritorialité du droit américain, par rapport au droit européen? Qu'est-ce qui overlap sur l'autre? On ne sait pas.
Non.
Et quelle sera la relation réciproque?
Bah, on sait le droit qui s'applique, on sait quelles sont les règles qui étaient avant, donc ça continue tel quel, mais visiblement ça allait à personne et ça posait des problèmes, donc il faut tout de suite réengager une discussion sur OK, qu'est-ce qu'on veut, quoi.
Effectivement, dans l'article, ils disent qu'ils vont recommencer à discuter, mais alors qu'est-ce que ça va donner, quand, dans quel projet ça va être rangé, parce que ça peut arriver comme ça aussi. Donc.
En tout cas, pour des gens qui là, tout de suite, démarrent quelque chose, de la même manière que c'était le cas au début des annonces de RGPD, c'est quelque chose que maintenant, on ne peut plus mettre dans le coin de son esprit. C'est quelque chose qui devient, j'allais dire, full frontal, quoi.
C'est plutôt une bonne chose que les
sujets-là soient adressés. Oui, c'est bien, du coup, ça force à se poser la question.
Voilà, c'est ça.
Et voilà. Et comme ça peut être vu comme une forme de protectionnisme, surtout, que ça peut être vu comme un antagonisme commercial entre les Américains, les Européens, les Chinois, les Russes, etc. Et voir comment c'est que ça va s'inscrire dans la guerre du cloud. Acheter français, acheter européen.
Ça, c'est la croisade du cloud.
Ça, c'est la croisade du cloud. J'ai arrêté de mettre les gifs croisade, parce que ça aurait été beaucoup trop... Il y en aurait eu tout le temps.
Dans un podcast, les gifs,
c'est pas très orienté. C'est un peu trop orienté aussi. Il faut pas... Le terme est chargé.
C'est très chargé. Lien suivant, toujours, on reste dans l'actualité, mais pas forcément grand-chose à voir, même si on va parler d'une boîte, pour le coup, française à vocation européenne.
Deux boîtes françaises,
en l'occurrence, oui.
OVH a acheté OpenIO, ça a été annoncé aujourd'hui. Alors OpenIO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de gestion de stockage. Et OVH, c'est le numéro 1 du cloud, a priori européen. Et je crois qu'Octave avait dit numéro 1 en infra dans le monde, je crois. Je ne sais plus, c'était un truc comme ça. Ils ont un peu de matos, quoi.
Ouais, ils ont un peu de matos, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute.
Et voilà, et OVH annonce leur achat d'OpenIO pour se lancer dans le stockage souverain européen qui déchire. Je sais que, Nicolas, vous aviez testé OpenIO chez Criteo.
Alors, il y a eu deux phases, en fait. Ils ont fait partie, effectivement, on cherchait des solutions, il faudrait dire de backup, mais de gestion de gros volumétrie de données pour complémenter par rapport aux grosses infrastructures Hadoop qu'on a. Et ils ont fait partie d'un benchmark avec d'autres solutions. Et on n'a pas trouvé notre bonheur. Il y a plein de façons de faire du stockage. On ne reviendra pas sur bloc, file, object. Là. Eux sont dans un positionnement qui est leur, qui est très bien, qui marche correctement. Mais c'était un peu early phase. Je parle de test qui est d'il y a longtemps. Hein, et ça ne correspondait pas à notre jeu de contraintes, on va dire. Donc, ça ne fitait pas. Il y a rond dans un carré, mais le contact était pris et bien pris parce qu'on a adoré travailler ensemble à tel point que quand ils sont revenus vers nous, ça devait être un an après et ça doit faire un peu moins d'un an maintenant. Donc il y a deux ans, ils sont revenus vers nous en disant genre on a fait des changements, est-ce que vous pourriez nous aider à faire des tests à l'échelle parce qu'on sait que généralement vous avez des possibilités vu de votre, comme tu dis, on a aussi un peu de, alors on est loin d'OVH mais on a aussi un peu de matos en stock et donc on est capable de mobiliser un certain nombre de serveurs. Une centaine facilement et jusqu'à 200, 250, ça s'organise quoi. Et on leur a dit bah, écoutez, vous êtes une boîte française, oui, French Tech, machin, on va serrer les coudes, vous avez besoin de faire des tests à l'échelle, venez les faire chez nous et puis on va collaborer.
C'est le terabyte par seconde challenge.
C'est ça, exactement. C'est exactement dans ce cadre-là que ce truc-là a été fait. Et ils avaient un objectif, ils avaient optimisé leur code pour cet objectif-là. Alors ça reste toujours dans une verticale de stockage qui n'est pas ce que nous on cherche. Mais par contre, on les a aidés à mettre à serrer les boulons autour de leur solution logicielle sur notre infra. Coup de bol, timing, on avait de la dispo en termes de nombre de machines. Et donc, on a mis tout ce qu'il fallait, et le matos, et les gens, un peu de disponibilité de gens de chez nous quand même pour les accompagner et setuper leur truc rapidement. On a des gens qui savent faire ça. Et ça leur a permis effectivement d'avoir une validation de leur capacité, des éléments techniques forts, qui prouvent que leur solution marche dans un cas réel et pas que sur le papier. Et ils ont effectivement axé une partie de leur marketing à l'époque autour de ça. Et on était présents à leurs événements. On a partagé des choses. C'était fin de l'année dernière, je crois, où justement Octave aussi faisait partie des gens qui participaient à un événement OpenIO. Donc, c'est des collègues au sens French Tech du terme. C'est des gens qui sont compétents leur solution, elle est intéressante. Comme toutes les solutions de stockage, elle a un certain nombre de paramètres, de paradigmes qu'elles gèrent bien, d'autres moins bien. Enfin, c'est
un... Faire des choix.
Voilà, c'est ça. Tu peux, la solution all-purpose qui fait tout, elle n'existe pas, quoi qu'en disent certains encore. Eux l'ont bien compris. Ils ont décidé d'avoir un axe stratégique fort. Et là, visiblement, Octave, OVH, plus largement, a décidé que c'était quelque chose qui avait de la valeur et qu'ils voulaient travailler avec.
C'est ça. Donc, eux, ils sont plus partis sur du compatible S3, donc plutôt stockage objet. Et à l'époque, toi, tu cherchais plus une alternative à HDFS, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Alors, alternative, pas pour le remplacer, mais alternative pour éviter d'avoir tout dans HDFS. Et le jour où tu as un pépin que tu peux ne pas voir venir malgré tout dans HDFS, tu as tout qui disparaît. Et quand on parle d'un demi-exabyte de data qui disparaît, tu aimerais avoir quand même deux, trois solutions à côté, quoi. Mais, alors, exabyte au sens de 500 pétas. Hein.
Alex, toi, tu quand tu dis je fais plein de choses chez Clever, tu t'occupes entre autres de truc cluster S3, c'est là, et donc c'est du CEF.
Ouais, c'est du CEF, ouais. Et on en est content. On avait regardé ce que faisait OpenIO à un moment, mais aussi sur CEF et ça marche très bien. Avant, on était sur React CF, qui n'est plus développé depuis quelques années maintenant. Ouais. Mais CEF, non, ça marche bien. Et je vois d'ailleurs, du coup, je me posais la question parce qu'OVH avait déjà une offre d'object storage avant. Et comme un peu tout ce qu'ils font de cloud chez OVH, c'est du OpenStack, du coup c'est Swift. Alors, j'ai jamais testé Swift, mais vu le reste d'OpenStack, ça ne doit pas forcément être glorieux et je peux comprendre leur choix un choix d'OpenIO pour fournir une offre un peu plus intéressante.
Moi, je pense que tu te trompes. OVH a toujours été, et en particulier dans ce domaine-là qui est très divers où chaque solution gère des problématiques différentes, je pense pas que ça a vocation à faire que du OpenIO. Bah après, il faut leur demander, mais de ce que j'en comprends de la stratégie, c'est d'avoir une corde supplémentaire à l'arc et pas j'achète une solution et je remplace tout. C'est rarement le genre de choix qui est fait dans ces grosses problématiques-là.
Une des missions, entre guillemets, qui va avec le renommage de VH en VH Cloud, c'est d'avoir le même type de catalogue que les clouds et du coup d'ajouter le plus d'arc possible. Et j'imagine que ça s'inscrit très bien. Très bien là-dedans.
Ah, pour le coup, dans la strat, oui, ça s'inscrit très bien.
Et après, sur OpenStack, il faut reconnaître que l'OpenStack d'OVH, c'est pas le même OpenStack que tout le monde.
Oui, probablement. C'est-à-dire,
ça marche mieux ou ça marche moins bien?
Je pense que c'est un peu adapté. Je pense qu'une certaine maîtrise de l'outil, ça fait des années qu'ils en font. Et je pense que alors Clever a commencé sur OpenStack il y a 10 ans, je pense que c'est plus du tout la même.
Non, c'est sûr, ça a pu évoluer. Mais c'est vrai que Swift, on n'en parle pas plus que ça, en fait. Enfin, souvent, c'est plus des gens qui s'en servent en interne, dans des boîtes de taille relativement modeste, et pas forcément sur des services vraiment à grosse échelle. Mais je ne sais pas trop ce que ça donne, en fait. Je n'ai pas tellement de retour là-dessus. Donc,
je n'ai pas dit ça.
Difficile
pas
de juger. Là-dessus.
OK. On va partir sur plusieurs liens avec une thématique commune. On va parler de sécurité, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Notamment la semaine dernière, le hack Twitter, ça c'est un lien que Nicolas a ramené. Vous avez probablement vu, si vous suivez, alors il y avait Jeff Bezos, il y avait Elon Musk,
Bill Gates. Elon Musk, puis des comptes de boîtes aussi. Je ne sais plus si Apple en fait partie de la liste, mais enfin, c'était un gros truc au sens impact en termes de communication et surtout des noms qui sont fait attraper, quoi. J'ai mis le lien parce que j'ai lu. Alors, il y a deux liens. J'ai mis un lien en anglais et un lien en français, dont les copains de chez Cubic, où tout le monde parle du hack. Et la plupart des gens que j'ai croisés, que ce soit des gens tech ou pas tech, ont compris genre, il y a eu un problème de sécurité informatique au sens un bug, un exploit de sécurité technique et de ça. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas du tout le cas.
C'est-à-dire que c'est pas un mec avec un hoodie dans un garage.
Je peux sortir le mien et faire semblant, mais non, c'est pas ça. Alors déjà,
c'est pas un bug, c'était une feature en fait.
Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle du social engineering. Donc clairement, ils sont en train d'essayer de démêler les. Il y a eu des articles dans les deux sens pour le coup. Ils sont en train d'essayer. La police essaye de démêler les fils pour savoir si est-ce que c'est des gens en interne chez Twitter qui avaient accès à la console d'admin qui se sont fait balader, ou est-ce qu'il y a une complicité interne. Et dans quelle zone de gris on est sur ce sujet-là? Pas très clair, apparemment, pour l'instant. Laissez la police faire son travail. Donc, ça, c'est un. L'autre truc, c'est de dire que sur ce genre de choses, on oublie souvent, dans l'imaginaire des gens, et même des gens dans ce métier, que le facteur humain est le premier facteur de risque, en fait. C'est-à-dire que les gens ne se rendant pas compte, en particulier ceux qui ont du pouvoir, ça peut être des sysadmins, ça peut être des gens qui gèrent des back-office, ne se rendent pas compte qu'ils se font embobiner et emmener de proche en proche sur une demande raisonnable. On va un peu plus loin, on va un peu plus loin. Et tu finis, si jamais c'est que du social engineering et pas de la malveillance en interne, les gars, ils ont quand même donné accès à, au compte de Bill Gates, d'Elon Musk, de machin, de bidule, des trucs. Bah, évidemment, la personne, le hacker, entre guillemets, enfin, la personne qui fait le social engineering n'a pas demandé, genre, bonjour, je voudrais avoir accès à tout ça, d'un coup, mais a emmené un petit discours, genre, c'est normal qu'au fur et à mesure, tu me donnes accès à tout ça. Ça, c'est un. Et le truc, ce qui est assez incroyable, là, des derniers articles que j'ai lus, c'est que dans la console d'admin de Twitter, les gens qui gèrent la plateforme et qui ont accès à ce truc interne, ils peuvent changer l'adresse email d'un compte Twitter sans aucune vérification, sans aucune, ne serait-ce que alerte ou warning, y compris authentification à deux facteurs vers l'utilisateur légitime qui a l'adresse mail avant. Et ça par contre, c'est très, très surprenant. C'est-à-dire que même en interne, même avec un super utilisateur, quand tu commences à faire des trucs un peu chelous comme ça, ça doit au minimum loguer, au mieux vérifier. Et ouais, ça, pour le coup, c'est l'outil. On ne va pas dire qu'il a une faille de sécurité, mais ouais, on peut estimer, alors avec les éléments qu'on a qui sont forcément partiels, mais ça semble être une, ouais, je ne vais pas dire une faute, mais ça semble être pas bien setupé, quoi. Et on oublie, hein, dans tous nos métiers là, d'imaginer ce genre de scénario-là.
Moi, la question que je me posais par rapport à ça, c'est en fait si c'est comme c'est quand même des comptes assez bien ciblés entre guillemets, s'ils n'étaient pas tous dans un espèce d'espace un peu particulier qui est celui des VIP et ainsi de suite, qui ont des contraintes un peu différentes, peut-être un peu plus loose sur certains trucs, parce que quand ils demandent des choses, t'es obligé de les faire même en cassant les règles du soft interne, tu vois ce que je veux dire?
C'est une bonne question.
Parce que c'est pas, ils t'ont pas dit qu'ils avaient eu 200 000 comptes de Quidam, dont ceux de machin. C'était vraiment que des comptes.
Le ciblage est très très fort.
Qui, à mon avis, sont quand même dans un groupe un peu particulier. Bah, ils ne doivent pas être sur le même serveur que Joel Clodo, quoi.
Pour le coup, rien qu'en termes d'infra, les comptes avec beaucoup de followers et de ça sont sur des endroits séparés, parce que sinon ils effondrent le reste du truc. Donc ils ont, en particulier, je sais plus, il y avait une histoire avec, je crois que c'est le compte de Justin Bieber qui était, un serveur pour lui tout seul, du genre fait pas chier les autres, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils sont déjà dans un groupe particulier, des gens avec la petite coche, tu sais, vérifier, personne vérifiée, ce compte-là, c'est bien la personne que ça prétend être. Donc il y a déjà, oui. T'as raison, mais j'ai pas vu d'article qui rentrait dans le détail de ces trucs-là, et je pense que c'est un peu normal. Twitter va essayer de faire son petit ménage de mots et forts, mais son petit check en interne sur comment on est arrivé là.
Mais sur le côté outil d'admin, justement, qui permet ce genre de modif, à mon avis, ça sent le truc qui a été mis là dans les débuts de Twitter, parce que voilà, au départ, tu fais confiance à ton équipe, on est 15, c'est bon, quoi, tout va bien, puis après, c'est oublié, en fait. Et on ne réfléchit pas à l'impact que ça peut avoir derrière.
Il faut toujours faire confiance à son équipe, mais la délégation et la confiance n'empêchent pas le contrôle.
Bah oui, non, c'est sûr. Bah, surtout après, quand on grossit, justement, qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont accès à cet outil-là, quoi.
Effectivement, dépasser la romanticisation du hacker dans son garage et bien se rendre compte qu'à chaque fois, quasiment, c'est du social engineering et pas un exploit.
Bah, quand c'est de l'exploit, on en parlera avec le lien après. Quand c'est de l'exploit ou de l'attaque informatique, les gens imaginent encore ce que tu disais là, le truc hollywoodien avec la capuche et tout. Et en fait, ça n'existe pas. Enfin, si, de façon assez anecdotique, ça peut arriver et tout ça. Mais quand les gens attaquent des choses avec de la valeur, c'est des gens, des groupes organisés qui coûtent donc de l'argent, donc des gens qui ont des moyens et qui s'attaquent à des choses qui ont de la valeur. Et ils ont plus souvent des chemises et des pantalons de toile plutôt que des hoodies et des jeans, quoi.
Clairement. On ne se rend pas compte de ce que ça nécessite comme moyens financiers, genre de choses.
Bah, tu calcules. Généralement, c'est des gens qui sont des experts en technique, qu'il faut payer suffisamment pour que ce soit compétitif sur le marché et que tu dois payer suffisamment pour que faire des trucs illégaux ne leur pose pas de problème. Bah, déjà que les profits techniques sont bien payés, ce qui est plutôt une bonne chose en général, quel que soit le pays ici. Bah, t'imagines comment la combinatoire de tout ça peut faire exploser le budget d'une équipe pareille.
Clairement. Et donc ça nous amène au lien suivant, ransomware chez Orange Business Service.
Ouais, alors là c'est un peu le même genre, j'ai mis deux liens français toujours chez les gens de chez Clubic, dont les articles en français sont plutôt pas mal et surtout bien informés, et d'un lien de Forbes, et en particulier les deux mais celui de Forbes encore plus, je trouve, dans la présentation, mentionne que Orange, l'opérateur téléphonie mobile, s'est fait est victime d'un ransomware. Et là, je voudrais débunker le truc parce que je trouve ça malhonnête de la part des journalistes qui écrivent ça parce que bah, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est un raccourci énorme puisque les gens, et tu l'as dit dans l'introduction, le ransomware, il a touché OBS, donc Orange Business Service, qui est une instance de cloud et d'hébergement ex-France Télécom, même si ça remonte il y a longtemps. Et en gros, la partie opérateur téléphonique mobile n'a pas été touchée par ce truc-là. C'est un truc qui est très ciblé, qui est dans une offre. Alors, je ne sais jamais lequel de nos chers cloud souverains a été racheté par OBS, mais ce n'est même pas dans ce secteur-là, c'est vraiment sur l'offre historique d'OBS, si j'ai bien compris, qui est du mutualisé, de l'IT mutualisé distant, quoi, qui a touché une vingtaine de clients. Donc, effectivement, ce n'est pas un client de ce service-là qui s'est fait avoir, a priori, de ce qu'on en lit, mais je suis prudent sur les éléments techniques transmis par des journalistes sur ces secteurs-là. C'est des fois un peu… Mais de ce qui est écrit, il semble que ce soit vraiment le back-end qui a été touché sur des clients relativement petits avec une attaque ransomware assez, maintenant, on va dire, standard et basique de « je te verrouille tes fichiers et tu es gentil, tu payes pour les récupérer ». Il n'y a pas, d'intention de destruction ou d'exploitation particulière des données. C'est vraiment du verrouillage et tout ça. Donc, je trouvais que la façon d'aborder, et c'est marrant, sur un média et français et de langue anglaise, bah, était trompeuse parce que ça veut dire genre, est-ce que j'ai un problème avec mon téléphone si je suis client chez Orange? La réponse est bah, non, c'est juste pas la même boîte en fait, c'est le même groupe, les machins. Et je trouve ça un peu abusé de venir tout mélanger, tout ça. Donc voilà, il faut faire attention quand on comme sur les problèmes de sécurité, il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. Ou les oranges et les bananes en l'occurrence.
Surtout entre consumer et B2B, quoi, clairement.
Ah bah en particulier, ouais, c'est juste pas le même métier.
Alors quand t'as une boîte comme ça, tu nommes pas ton service pour les pros avec le même préfixe que ton service public. Et
puis... Bon. Il y a une certaine identité de boîte.
Parfois, ils jouent sur le brand hein, quand même. Ils jouent aussi dessus, hein, sur le fait que c'est la boîte qui sert tout le monde et qui, en plus, te donne ton service pro. Donc, c'est un peu le revers de la médaille aussi. Quoi.
Ouais, mais...
Bon, ça n'empêche pas que oui, ça pourrait être un peu plus carré au niveau com.
Un poil plus d'accord. Précis, parce que là, c'est vraiment joué sur l'effet
approximatif,
aspiralien du un opérateur téléphonique s'est fait avoir. Et en fait, tu dis, bah, juste, c'est pas vrai.
Alors, on peut qualifier ça de putaclic sans trop de soucis.
Non, aspiralien, il y a un terme français qui n'est pas injurieux. On l'utilise, j'y tiens beaucoup.
Aspiralien.
Il me semble que, comme d'habitude, les beaux mots valises en français sont. Il me semble que ça a été écrit par des Canadiens, comme d'habitude.
Probablement. Moi, ça m'a rappelé ce qui est arrivé à Bouygues il y a quasiment un an, où il s'était fait rançonner aussi assez salement, mais là, pour le coup, c'était toute la boîte. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Pour le coup, hier, et je ne veux pas jeter l'opprobre sur la marque et tout ça, c'est juste une info. Hein, le groupe MMA est touché en ce moment, là, depuis hier matin, par des infos que j'ai, qui sont publiques, donc je ne révèle aucun secret, un ransomware qui a fait qu'ils ont arrêté tout leur IT et ils ont stoppé leur site web et ils sont en train d'essayer de s'en dépêtrer. A priori, ils ont les gens compétents pour le faire en interne et ils sont aidés. Mais ça touche des gens, quoi. C'est pas. Et c'est généralement, les gens disent genre, ah, est-ce que moi je vais me faire hacker par un groupe de hackers malveillants? Les groupes de hackers, ils vont taper là où il y a de la thune. Il y a du phishing et tout ce genre de trucs, mais ce genre d'attaque ciblée très technologique et très technique, elle coûte des sous, donc elle cible des choses qui sont très rentables.
Ok, toujours en attaque. On ne sait pas forcément avec tout le détail de ce qui s'est passé, mais c'est toi aussi, Nicolas, qui a parlé d'une boîte de VPN chinoise qui était censée ne rien stocker et en fait s'est fait cramer et du coup
Alors en fait,
no log, mais en fait si.
Alors en fait, sur les 10 derniers jours, on parle de plus d'une dizaine de boîtes de VPN qui sont fait attraper de la même manière. C'est-à-dire que là, j'ai mis une en particulier.
C'est pas isolé, ouais.
Mais j'ai rien contre UFO qui est basé à Hong Kong, si je me souviens bien et tout ça. C'est juste là, sur les 10 derniers jours, il y a eu même des méta-articles sur « Oh punaise, tous ces gens-là qui sont nologues se font faire ça ». De ce que je sais, que j'ai creusé un petit peu, dans le cas du UFO, c'est un Elasticsearch pas sécurisé qui a été exposé parce qu'une règle de firewall a changé et qu'ils n'ont pas fait attention. Donc déjà, bah, en termes d'opération, c'est pas cool. Au-delà de ça, comme tu disais, Pierre-Antoine, tu sais, genre, les VPN, tous ces types de VPN vendent à leurs clients, je vous garantis que votre nom, votre IP, votre parcours, machin, rien n'apparaît. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du UFO, c'est que eux, c'est un VPN gratuit qui se finance sur la pub, donc qui vient injecter de la pub dans ton trafic. Et donc, tu te dis, genre, faire ça sans log, c'est quand même relativement compliqué.
Ah, les gens qui font ça, je trouve ça horrible.
De cette manière-là, je te confirme que c'est
c'était
un peu,
trop tentant,
un peu compliqué.
Désolé.
Non, mais il n'y a pas de souci. Mais voilà, et donc, il y a plein de problèmes intriqués. Il y a un problème de privacité, il y a un problème de mensonge sur le service. Alors, je sais que le grand nom du VPN qui fait beaucoup de pubs et qui sponsorise beaucoup de vidéos sur YouTube, que vous connaissez forcément, eux se targuent d'avoir un auditeur externe qui a vérifié que c'était bien le cas, que ce qu'ils faisaient tout ça. Sur UFO, je ne sais pas s'ils ont eu la même méthodologie ou pas, mais en tout cas, voilà.
C'est-à-dire que l'auditeur externe n'avait pas accès à Elasticsearch, tout ça.
C'est toujours la question, est-ce que tu montes un auditeur ou pas.
Pas aucune vanne sur Elasticsearch en particulier, hein. C'est juste
sécuriser. Non, c'est un très. Nous, on en a.
Il faut le sécuriser, par contre. Hein,
c'est voilà. Mais comme on a eu toute une campagne de tests sur les bases MongoDB où ils ont trouvé plein de trous couverts, c'est pas la base, c'est la façon dont on l'utilise. Quoi. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, pareil, de se rappeler qu'il n'y a pas de safe world. Il faut là pour le coup les utilisateurs, je sais pas ce qu'ils pouvaient bien faire pour ça, mais
se méfier d'une offre trop peu chère par rapport à ce qu'elle vend, quoi.
Bah, alors dans le cadre d'un VPN, dans le cadre d'un VPN, c'est si c'est gratuit, c'est toi le produit, ne se pose pas mieux, quoi.
Bah non.
Bah ouais. C'est clair. Au-delà de même de donner de la publicité pour te la cibler quelque part et te la distribuer, à un moment donné, il faut qu'on sache quitter d'où tu viens, où tu vas.
Sans log, c'est un peu compliqué.
Même temporairement, quoi.
C'est ça.
Ça me rappelle l'histoire, le début des offres élastiques où tu avais de l'auto-discovery et les gens n'étaient pas forcément dans les mêmes réseaux, n'étaient pas forcément des réseaux privés.
Oui, c'est ça.
Quand tu démarrais un élastique, c'est des gens, il n'y avait pas d'autant. Et en plus, il allait récupérer, se fédérer avec les serveurs de ses petits copains.
Ouais.
Ils ont un peu changé les paramètres par défaut depuis.
C'est pas le chef de chez vous qui parle du mythe de la forteresse et de aucun réseau n'est privé.
C'est ça. C'est Quentin et surtout Geoffroy Coupry.
Ouais.
On part sur le principe que même derrière le firewall. L'exemple que j'aime bien donner dans ce cas-là, c'est de parler de la ligne Maginot. Ça ne marche pas en fait. Tu te dis c'est bon et puis en fait il faut juste faire le tour et après c'est open bar. Et nous, on considère que s'il y a si potentiellement, une fois que tu as fait le tour, ce open bar, ben, c'est pas normal. Et du coup, il faut que tout soit protégé unitairement.
Ça arrivera forcément un jour ou l'autre.
Exactement. Ouais. C'est pas de savoir si, c'est de savoir comment. Est-ce que tu feras après.
Yes.
Exactement. Alors, justement, en termes de protection, deux autres chiens qui vont ensemble, le lancement d'un service qui s'appelle Google Cloud Confidential Computing, ou IS Confidential VM, qui est en fait une des premières offres qui utilise une nouvelle feature des process AMD, dont j'ai oublié le nom, qui te permet de, si j'ai bien compris, de crypter la RAM aussi au niveau VM. Ça veut dire que là, tu es vraiment bien tout packagé.
C'est plutôt bas niveau.
Hein. Ouais, c'est plutôt très très bas niveau.
C'est les EPIC. Hein.
Deuxième génération
de chez AMD. Ouais. Avec un Y.
Et ça a l'air méga cool en fait. Et on aimerait bien qu'Intel fasse ça aussi.
Ouais, c'est assez enthousiasmant. Ouais. C'est assez chouette comme évolution. Après, bon, il faut voir jusqu'à quel point ça va être robuste et stable en performance. Je pense que ça a l'air. S'ils lancent le ballon d'essai, c'est qu'ils ont probablement déjà pas mal investigué dessus. Mais en tout cas, la démarche est chouette, hein, parce que c'est vraiment la sécurité plus bas niveau. C'est encore redescendre plus bas la surface d'attaque. Alors après, il y a eu quand même dans les temps plus ou moins récents des problèmes au niveau processeur qui montrent que ça peut quand même amener d'autres risques. Mais le risque n'est pas complètement éteint quand on descend en dessous d'un kernel, par exemple. Hein, donc, il faut être vigilant quand même, comme tout. Mais c'est un nouvel outil dans la boîte à outils qui est vraiment intéressant, quoi.
Vas-y, je t'en prie.
Ouais, désolé. Niveau faille qu'on a eu récemment, principalement des prosos Intel, mais pas uniquement, il y a eu le cache AMD aussi, systématiquement, c'était lié à une fonctionnalité du processeur qui permettait d'optimiser les perfs. C'est les tentatives d'optimisation de perfs qui faisaient qu'il y avait des soucis de sécurité. Alors que là, c'est vraiment une fonctionnalité qui est faite pour améliorer la sécu. Faut peut-être pas compter dessus à 100%, mais c'est un bonus sympathique quand même, quoi.
C'est pour ça qu'il faudra aussi attendre leur, il faudra aussi attendre leur tour pour voir justement si les perfs sont bonnes. Parce que si elles ne sont pas bonnes, on va avoir des nouveaux raccourcis pour améliorer les performances qui pourront induire des problèmes. Ce qui est la boucle, infinie de la résolution de bugs, quelque part.
Pour le coup, moi qui suis plutôt utilisateur et pas, comme vous, fournisseur de trucs multi-tenant, quand je vois ça et qu'on me dit genre « Ah, enfin, on va avoir de la confidentialité », je me retourne et je fais « Ça veut dire que jusqu'ici, ça ne l'était pas ?» Genre, attendez, bougez pas, mes VM, là, chez tout, parce que moi, de l'utilisation chez plein de fournisseurs de ce type-là, j'en ai quelques-unes. Je me dis genre, s'il y a besoin de ça, ça veut dire que ça ne marche pas le reste, ce qu'il y a déjà en place. Et effectivement, c'est comme tu disais, c'est une question de détache, de confiance, de trucs.
Supplémentaires. C'est ce qu'on disait juste avant sur la forteresse, c'est des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Et finalement, tu sais que tu as un niveau 1 de boîte, niveau 2 de boîte quelque part. Ouais. Et là, tu sais que tu vas pouvoir rajouter un niveau supplémentaire sur des choses qui n'étaient pas. Donc tu dis, c'est bien, tant mieux. Quoi.
Ouais. Oui, non, mais je trouve le truc positif. C'est juste que ça m'interpelle un peu, ça me fait sourire.
Et rester dans cette notion de process à améliorer tout le temps en termes de sécu et pas juste, ça y est, j'ai mis un truc et c'est bon, mais toujours.
Ouais. C'est clair que les tentatives en face, les gens, ils s'arrêtent pas.
Il continue, ouais. Et moi, ça m'a rappelé un peu, dans un des premiers épisodes, on parlait d'encryption homomorphique. Ça demande de réécrire un paquet de trucs. Mais globalement, tu sens que si tu veux le gérer convenablement, il faut vraiment descendre dans les couches. Et qu'ils n'essayent pas de proposer la gestion de ce niveau de sécurité aux développeurs, entre guillemets, au niveau. Mais vraiment, quelque chose à la responsabilité des gens un peu plus bas niveau. Et Google, il y a un lien où ils lancent le Asilo Framework, un open source framework for confidential computing. Donc tu sens qu'ils sont tous en train d'aller vers là sur des briques bas niveau pour renforcer tout ça.
Ils vont bientôt mettre une fondation avec aussi. S'il n'y a pas un petit troll de temps en temps, c'est rigolo. Non, mais c'est chouette, c'est bien parce que j'ai pas encore regardé Asilos, mais ça peut être intéressant de voir comment c'est portable sur autre chose. Mais il y a des chances que ce soit pour l'instant assez spécifique de l'implémentation actuelle.
Yes. On reste dans la sécu toujours. Dernier lien, remplacer encryption PGP des mails par un formulaire HTTPS. Alors là, comme ça, le titre est un peu absurde. Alex, qu'est-ce que c'est ?
Le titre est un petit peu. J'ai pas retenu le nom que tu as utilisé, Nicolas, du coup. Un aspiralien, c'est ça ?
Aspiralien, ouais.
Voilà. Alors, il y a un petit peu de ça. L'idée de l'article, c'est de dire que dans le cadre de la transmission d'un rapport de bug, enfin d'une faille de sécu à un organisme, que utiliser un format HTTPS, ça peut être plus intéressant que de se baser sur un email chiffré en PGP. Et au passage, il attaque un petit peu, pas PGP en soi, mais son utilisation et la complexité de son utilisation aujourd'hui. L'idée est de dire que dans un organisme, alors quand même, par exemple, c'est pour Go, là, le mec est le coordinateur de sécurité de Go. L'idée est de dire que quand ils reçoivent un rapport de faille de sécu, ce qu'ils vont faire derrière, c'est en parler sur leur mailing list interne ou faire une issue sur GitLab, GitHub ou Gerrit ou n'importe quoi. Sur ces services-là, du coup, la sécurité, c'est entre autres HTTPS plus le stockage de la machine derrière. Et donc, en fait, à la limite, autant tu fais déjà confiance à HTTPS, autant s'en servir aussi et faire un formulaire qui va créer une issue directement dans ton outil de tracking, plutôt que de baser sur un truc finalement pas si simple que ça à utiliser, où les gens peuvent faire des erreurs, etc. Où les gens peuvent utiliser une clé qui a 15 ans et qui a leak et on n'était pas au courant, enfin, etc. Voilà, c'est l'idée que je trouve ça assez intéressant. Et l'article va un peu plus loin et c'est assez intéressant à lire, je vous le recommande.
Okay.
Voilà.
All right. Des utilisateurs de PGP ici ?
Il y a longtemps.
Sporadique.
Très sporadique.
Via, j'ai testé via Keybase récemment, aujourd'hui, toujours.
Mais... Ouais, Keybase ou Mozilla SOPS, dont on a parlé aussi dans un autre épisode. J'ai joué un peu avec. Ouais.
Yes. On va changer de sujet, on va parler de DevOps maintenant avec un tweet. Nico, tu nous fais remarquer que Octave de Klaba, de VH, tweet beaucoup, beaucoup, beaucoup hardware en ce moment.
Pas que en ce moment, c'est une habitude, tu le sens, un mec passionné quoi.
C'est ça. Globalement, il parle plus de hardware que de software, même si dans un de ses derniers tweets, il a dit ça y est, on est la nouvelle génération, on est prêt pour mettre un gros coup d'accélérateur sur la partie soft. Mais en attendant, c'est vrai qu'il parle énormément de détails techniques bas niveau qui sont souvent oublié par la plupart des gens qui font du as a service, en fait.
Yes.
Personne ne sait, tu sais, quand tu commandes quelque chose, quel est le modèle du matos que tu as commandé.
Ouais, c'est exactement ça, c'est la compta. Alors, deux parties. D'abord, c'est incroyable de voir quelqu'un comme Octave, qui est à la tête de cette société, qui est quand même un gros acteur, comme on disait tout à l'heure, donner, exposer, partager autant de trucs très techniques par ce biais-là, mais globalement dans son offre, où tu sais que voilà, tu as pris des machines de tel type avec telle connexion, et on sait l'impact que peuvent avoir la précision du matos que tu mets derrière ou le setup que tu fais sur la performance d'une manière générale, face à une autre approche qui est tout à fait aussi respectable, où d'autres providers ont des API plus haut niveau en mode genre ne vous occupez pas de tous ces détails techniques, on va faire en sorte que ça marche.
Et en fait, ils exposent que le niveau de service, mais pas l'implémentation, quoi.
C'est ça, exactement. Enfin, moi, je sais qu'on
là, c'est plus le contraire.
On a eu des discussions, quand même, parce qu'on a quand même beaucoup de besoins en machine, de manière générale, enfin, en matos, quoi. Et on a été approché par pas mal d'acteurs, où, avec des gros acteurs, on leur a dit, mais nous, on connaît très bien parce qu'on fait nous-mêmes, donc on sait que, voilà, tel détail technique dans la configuration, dans le setup, et ça, hyper important sur la performance qu'on arrive à atteindre. Et vous, comment vous faites? Et le truc, c'était genre, le mur, quoi, tu vois, genre, non, c'est des détails d'implémentation, on ne partage pas ce genre de truc avec les clients. Tu fais, bah ouais, mais quand moi, mon implémentation, elle réagit mieux dans ces trucs-là, j'ai besoin de savoir. Ça va jusque y compris des gens qui, parce qu'ils sont habitués à l'API haut niveau, bah, installent, on va reprendre l'exemple d'Elasticsearch sur une VM Amazon avec pas de disque en local, et bah, forcément les pertes d'indexation à travers du disque en réseau, bah, c'est juste pas fait pour, et c'est marqué dans la doc d'Elasticsearch, tu vois, où tu te dis genre il faut pas faire ça, mais en fait les gens ont tellement pris l'habitude que ce soit facile et rapide, ce qui est cool, c'est une bonne feature. Et donc, je me demande comment, entre ces deux modes de fonctionnement-là, comment tu trouves un savant équilibre. Ça vaut pour les fournisseurs comme vous d'infrastructures, qu'elles soient cloud ou pas cloud, privé, public, whatever, mais aussi pour les gens qui font de l'architecture, en mode genre, en interne, qu'est-ce que j'expose, qu'est-ce que j'expose pas, qu'est-ce que j'explique, qu'est-ce que je casse. Je veux que ce soit facile pour mes clients, donc je veux pas que ce soit trop compliqué. Mais à la fois, si je leur dis rien sur comment c'est fait, ils peuvent pas prendre des choix d'intelligence. Et pourquoi j'ai mis ça dans la catégorie DevOps? C'est parce que c'est pour moi, c'est exactement ça. C'est DevOps, c'est avoir que la partie dev ait une bonne connaissance de comment la partie opération ou run est faite pour faire des choix intelligents, et inversement, que la partie opération sache quelles sont les contraintes dont le dev a besoin, performance, à quel endroit et tout ça, pour que bah, l'index soit au bon endroit dans la base de données, et cette collaboration-là, elle existe. Et je trouve que ni le modèle genre v'là du matos, démerdez-vous, et ni le modèle, genre, v'là des API, et surtout, venez pas poser de questions, ne remplit complètement, là, tu vois, ce rond dans le carré, enfin, la quadrature du cercle. Et je me demande un peu, c'est à quel est le moment, comment tu mets le curseur dans une offre pour des clients ou pour des utilisateurs en interne. Ça fait partie de mes réflexions du moment. Je trouvais intéressant de lever ce débat-là.
C'est pas facile, tu as tous les niveaux d'abstraction qui augmentent, et du coup, les niveaux de spécialisation aussi, et du coup, à qui tu t'adresses à ce moment-là, c'est...
Ça joue beaucoup aussi, je pense, avec un certain niveau de confiance que tu as avec tes interlocuteurs. Si tu fournis un niveau de service avec qui est basé sur du soft, en fait, finalement, ou des API, rentrer dans le détail en dessous, tu vas le faire peut-être avec certains clients premium ou des gens qui ont besoin de choses un peu particulières. Ouais. Si tu veux fournir un niveau de service générique à tout le monde, être en full disclosure tout le temps, ça t'enlève beaucoup de souplesse d'innovation aussi. Enfin, voilà, je pense que c'est un équilibre à trouver, hein.
Ce que tu veux dire, c'est que y a pas, quand on parle des clients, il n'y en a pas de pareil, quoi. C'est l'adaptation à leur expertise.
C'est peut-être excessif, il n'y en a pas de pareil, mais je pense qu'en effet, sans insulter les clients, il y a beaucoup de choses similaires quand même. Hein, mais il y a des gars, quand tu as besoin de quelque chose d'un peu plus particulier, oui, ça peut être intéressant, entre guillemets, de rentrer dans le détail. Dans plein d'autres cas, je pense que ça brouille les pistes. Et quand tu vas à l'excès inverse, où tu parles plus de ton matériel, et pas encore assez ou pas au niveau de ce que tu fournis en termes de service, là, ça brouille encore plus les pistes parce que les gens ont l'impression qu'ils peuvent monter leur propre IT finalement, que tu es juste un fournisseur de hardware, etc.
Ça peut être un positionnement. Et
ce qui est un positionnement, hein, mais ce n'est pas le même.
Oui, tout à fait. On est d'accord.
On va changer de domaine et on va passer au... C'est vrai parce que Nicolas, quand tu as mis les liens, tu as déjà tout organisé. Donc, on vient de passer de DevOps à People Management. Et donc, on a deux liens People Management. Et le premier que je voulais choisir, c'était le blog d'Olivier Poncet sur le côté générationnel des techos. Et il y a c'est une bonne transition parce qu'à un moment donné, dans le blog, Olivier parle justement de, bah, des spécialisations où lui, il aime bien connaître, sans dire être full stack, connaître à peu près tout ce qui se passe de haut en bas et se désole un peu du fait que ce ne soit plus le cas pour la plupart des gens. Et donc, c'est un blog qui sent un peu le seum et il le dit, hein, tu vois, il le dit, il n'est pas super content de la situation actuelle et il essaie d'expliquer pourquoi et c'est un lien de Pierre-Antoine Grégoire, je crois.
C'est un lien de lui, hein. Moi, j'ai fait que relayer, mais je voulais bien en parler. Bah, forcément, comme on a dans plus ou moins, moi, j'ai plus ou moins dans le même âge que lui, donc je me sens partiellement concerné. Enfin, on n'a pas la même histoire, mais il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais. Après, j'ai pas envie de rentrer dans le côté hockey boomer où les gens te balancent du hockey boomer, alors que sans savoir ce que c'est qu'un boomer, manifestement, parce qu'on est quand même pas dans cette tranche d'âge-là. Mais on a bien compris le message. Mais le côté, ouais, c'était mieux avant, ça, je suis pas forcément non plus super fan de ça. Par contre, c'est clair qu'il y a un énorme décalage entre les gens qui ont commencé à rentrer, en tout cas dans l'IT, je ne vais même pas parler de vie professionnelle, même leur intérêt pour l'IT a commencé après les années 2000, et ceux qui ont commencé avant, parce que le niveau de service, Internet, les smartphones, enfin plein de choses comme ça, qui font qu'en fait, en effet, on parlait des niveaux de, même là pour les fournisseurs cloud, du niveau d'abstraction. Quelque part, quand tu es beaucoup sur le niveau d'abstraction du dessus, finalement, alors, il y a des gens qui ont cet intérêt hein, de tout démonter, de faire du mécano ou du Lego et pas jouer au Playmobil. Mais quand tu as joué au Playmobil, finalement, comment ça s'articule? Tu t'en fiches un peu, tu utilises la voiture et puis la fusée, mais tu ne l'as pas montée. Et je ne dis pas que tout le monde doit le faire, que c'est le destin de tout le monde. Et puis surtout, quand tu vois la multiplicité de techno qu'il y a maintenant, être spécialiste de tout, ce n'est pas possible. Mais avoir la curiosité d'un peu tout, ce n'est pas dommageable pour tout le monde, en fait, finalement. Surtout quand il y a des choix à faire.
Ah, et, c'est marrant.
Voilà, il parle de plein d'autres choses. Hein. Il parle de choses plus liées à son parcours personnel, à son burn-out, ou des choses comme ça, qui ont des sujets qui ont déjà été invoqués par ailleurs.
Voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que si on shift, tu vois, 10, 15, 20 ans en avant, il y avait, moi, quand j'ai commencé à bosser, des gens qui avaient l'âge que j'ai maintenant et qui disaient genre « Ah, mais vous, de toute façon, ça ne vous intéresse plus de savoir comment ça marche à l'intérieur d'un processeur. » Tu vois, c'est... Le niveau d'abstraction qui monte.
C'est ça, ouais.
Et aujourd'hui, même parmi les gens très, très compétents que vous êtes, je défie quiconque de m'expliquer de façon simple comment un pipeline de 128 étages fonctionne dans un processeur Intel. Donc, on est un peu, nous, par rapport à tu vois, ces choses-là. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir tu vois, cette progression de niveau d'abstraction.
Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, encore une fois, je veux pas faire de la caricature non plus dans dire que dans des gens qui seraient plus jeune, il n'y aurait pas cet intérêt. Je pense qu'en revanche, globalement, statistiquement, ou peut-être parce qu'il y a plus de gens qui travaillent dans l'IT globalement, cet intérêt s'est beaucoup dilué. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des gens qui s'intéressent à ça. Et s'intéresser à comment tournent les processeurs derrière un fournisseur cloud, ça a son importance. On parlait tout à l'heure, bah justement, cette fonctionnalité là sur les processeurs AMD. À pas savoir que si ton fournisseur à un moment donné n'en a pas, tu n'auras pas cette fonctionnalité là, mais tu auras peut-être autre chose. Et voilà, donc ça c'est quand même intéressant et c'est pas anodin.
Oui, c'est pas forcément savoir faire, mais au moins comprendre que ça existe et comprendre l'importance de la fonctionnalité proposée ou pas, quoi. Mais ça c'est un point très précis dans le blog, enfin dans l'article de blog d'Olivier qui, tu l'as dit, est globalement. Parle à beaucoup de gens, là, les réactions sur Twitter ont été assez unanimes, bizarrement pour des gens qui ont ce type d'expérience, et c'est généralement lié à l'âge. Il n'y a pas de souci.
Mais après, dans les réactions, il y a beaucoup de gens qui réagissent sur le côté burn-out, d'autres qui réagissent sur ce dont ils parlent, sur la manière dont les projets sont gérés, organisés, d'autres qui réagissent sur ce côté un peu techno.
Ouais.
Mais bon, il a un parcours qui, du coup, je pense, a résonné pour plein de monde sur une facette ou l'autre ou toutes.
T'as vraiment le côté aussi maturité où tu t'intéresses plus à la techno quand t'es jeune et plus au métier parce que tu comprends que c'est juste un outil pour le métier et que ce qui devient le plus important, justement, c'est de discuter. Enfin, c'est des choses.
Je sais pas si c'est vraiment un effet de la maturité ou si ça s'impose à toi par l'environnement autour. C'est-à-dire que peut-être qu'avec le temps, il y a plus de gens qui vont vers de la gestion d'équipe ou des choses comme ça et sont avec des interlocuteurs qui ne s'intéressent pas à ça.
Mais plus que ça, moi, j'ai toujours
bossé chez des éditeurs. Je dis en général, pas en particulier. Après, il y a toujours des exceptions. Hein. Mais je pense... Moi, je n'ai pas l'impression, par exemple, avec le temps, de moins m'intéresser aux détails. J'ai l'impression de plus m'y intéresser, peut-être d'avoir moins le temps, mais de plus m'y intéresser.
C'est moi, c'était plus le côté éditeur ou client final aussi qui peut faire changer ce biais-là. Moi, j'ai toujours bossé chez des éditeurs et du coup, j'ai toujours été très techno et regardé ce qui se faisait autour, toujours très techno, sans forcément regarder et m'intéresser aux besoins métiers des gens parce que je vendais un outil qui eux utilisaient comme ils voulaient pour leur métier. Donc, je pense que ça dépend aussi de ça.
C'est ça. C'est ça. Lui, son retour, il est plus en effet sur l'implémentation de besoins pour des clients aussi. Hein, donc,
ouais.
Clairement. Ouais.
C'est clairement... c'est surtout depuis, il me semble qu'il est passé indépendant sur depuis un moment petit, mais avant il n'était pas, et ça l'a confronté à un certain nombre de relations avec de l'implémentation client dans des contextes et tout ça. Enfin, il en parle vachement bien dans son blog. Enfin, les gens qui s'intéressent, il faut vraiment aller prendre le temps de le lire.
Et il est bien écrit.
Il y a plein de sujets, il en parle mieux que nous. Et
j'espère avoir donné envie d'aller le voir.
Ah, il faut.
Ouais, lisez-le, c'est bien écrit, c'est agréable à lire.
Ouais.
On reste dans le people management et on passe à un article de Nicolas sur stop à l'historique des salaires. Alors, c'est pas forcément sur l'historisation des salaires, mais en tout cas sur quand tu commences un nouveau job ou quand tu passes à l'entretien, il n'est pas nécessaire de rappeler ton salaire précédent.
Alors, je vais redonner un peu de contexte comment moi je suis tombé là-dessus. C'est une ancienne collègue qui est, pour le coup, dans le recrutement de profil technique, hein, Caroline Chavier, qui retweete cette chose-là. Et l'axe dans lequel il faut voir cet article et ce retweet, c'est continuer à demander combien vous gagnez à quelqu'un pour pouvoir lui faire une proposition de salaire sur un job que tu as à pourvoir chez toi. En fait, ça amplifie les discriminations. C'est pas que ça les crée, ça peut participer à les créer, mais plus que ça, c'est que ça les amplifie. Parce que quelqu'un qui est discriminé par son salaire dans son historique, si tu te bases sur ce qu'il gagne aujourd'hui et pas par rapport à ce que toi, tu es prêt à mettre ou par rapport à ton besoin, et ben en fait, tu vas faire une continuité de cette discrimination. C'est-à-dire que tu vas avoir ce qu'on appelle un biais d'ancrage par rapport à ce que la personne gagne aujourd'hui. Et elle le gagne peut-être de façon pas légitime par rapport à une discrimination. Et c'est cet angle-là qui m'intéressait en particulier. On pourrait débattre sur comment déterminer dans la partie contractuelle d'un contrat de travail qu'est-ce qui est une bonne rémunération ou pas dans les deux parties en présence, comme une espèce de jeu de Pokémon-teur qui n'est jamais très agréable dans ce genre de situation. Et alors, la relation est asymétrique, mais elle est pas plus, enfin, elle est désagréable différemment selon que tu es employeur ou que tu cherches un taf.
Parce que ça dépend si Datadog s'est installé à Paris avant ou après, c'est ça ?
J'ai pas d'avis sur la question. Mais vraiment, le côté, tu demandes à quelqu'un genre combien tu gagnes, il faut te rendre compte qu'en demandant combien tu gagnes aujourd'hui, tu vas toi-même te focaliser dessus et tu vas être dans la continuité de potentiellement son historique. Et c'est pas forcément ce que tu as envie de faire, parce que sauf que si tu sais pas la personne combien elle gagne, toi-même tu sais pas dire si tu es prêt à mettre tant en fonction de l'expérience. Et ça, c'est un jeu à plein de facettes. Et donc demander, c'est à la fois pour l'employeur lever une incertitude histoire d'être fair par rapport à un historique, mais il faut avoir conscience du fait que ça peut avoir un impact sur les biais et dans les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde sur ces sujets-là de non-continuation des biais et des injustices ou des discriminations. Je pense qu'il est important de se rendre compte qu'en demandant le salaire, potentiellement, on est dans ce genre de mécanisme.
On entretient le biais sur être fair par rapport à avant, alors que ce qu'il faut, c'est être fair par rapport à tous tes nouveaux collègues dans l'entreprise et la structure où tu es.
Alors déjà, je vais prendre un exemple classique. Il y a des études statistiques qui montrent les progressions de salaire des femmes, quel que soit le métier, c'est pas spécifique à l'informatique ou au métier tech, hein. Qui disent elles progressent moins statistiquement dans toutes les entreprises. Et donc, si tu demandes à une candidate combien tu gagnes, tu vas perpétuer sa non-progression salariale par rapport à avant. Mais ça s'applique à tout un tas de catégories de salariés. Hein. C'est pas
je discutais avec une animatrice radio hier soir sur une radio bien connue qui me disait effectivement gagner globalement 50% de moins que son counterpart masculin.
50%. Wow.
Deux choses, le fait que ce soit une femme et le fait qu'elle n'ait pas fait l'école des animateurs radio.
Ah, c'est un biais français en particulier, pas que, parce qu'en Europe, on retrouve des trucs comme ça. L'Allemagne étant assez balèze sur le sujet, tu n'as pas fait la bonne case et tout ça. Je trouve que dans les métiers tech, ça a un peu disparu. Enfin, en tout cas, moi, les boîtes que j'ai vues, c'était moins fort. Les boîtes, encore une fois, biais de localité. Mon cas et ce que j'ai vu n'est pas le cas général. Et je sais que ça existe des entreprises où, enfin moi, je sais que chez Criteo, on a eu des gens qui avaient fallback ou à peine ou machin, et qui étaient très compétents techniquement et gagnaient la même chose que le gars assis à côté, la chaise à côté, qui faisait le même métier. Et ça, de ça, franchement, je suis très très fier et je veux que ça continue chez nous, je veux que ça continue ailleurs et faire passer le message que faites attention à ce que vous faites. Quand vous demandez un salaire, potentiellement, vous faites quelque chose qui n'est pas bien.
Vous rentrez dans un jeu de poker menteur dont tu parlais.
Et pour les gens que ça intéresse, ce genre de sujet, j'invite vraiment à suivre le Caroline Chavier sur Twitter, parce que ça fait partie des sujets sur le recrutement, le people management, sur lequel elle revient beaucoup. C'est une bonne source de réflexion.
Le corollaire de ça, dans l'autre sens, tu te sers de l'annonce de salaire pour espérer augmenter plus que là où tu étais, pour justement essayer de résorber ton historique de salaire.
Ouais, mais plus tu fais ça, plus l'employeur, il lui, c'est un jeu, tu sais, c'est la mesure, la contre-mesure, la contre-mesure, et l'employeur se dit, bon, s'il me dit 800 000, je prends un chiffre forcément complètement hors de propos, comme ça on sait que c'est hors de propos, en fait, c'est que il espère que je vais rogner un peu, et donc en fait, il veut 700, tu vois. Ouais. C'est faire d'être 700, donc je vais optimiser un peu, je vais donner 650. Et en fait, c'est un jeu de triple aveugle avec double mensonge, masque et tout ça. Genre,
putain, c'est de négociation de bazar, hein, après un moment donné. Hein. C'est tu mets ton ça. Curseur haut, ton curseur bas.
Moi, j'aimerais que dans l'équilibrage, les entreprises se posent plus la question, juste pour ce rôle-là, combien je suis prêt à mettre, c'est quoi le ROI, et surtout par rapport aux gens qui sont déjà présents, est-ce que c'est faire ou pas. C'est-à-dire que si je suis capable d'embaucher, parce que j'ai l'opportunité d'embaucher quelqu'un moins cher, alors que à formation et poste équivalent, ben, y a un décalage avec les gens qui sont déjà présents, sous prétexte de l'ancienneté, genre ils sont là, donc ils sont plus performants. Oui, certes, mais est-ce que c'est faire ? C'est dur, hein ? C'est dur de savoir.
Ok, donc j'ai rajouté le lien Twitter sur le compte de Caroline.
Je suis sûr que ça lui fera plaisir.
On passe à une section miscellaneous et nous avons un premier lien de PAG sur Lightwork, qui était le soft de montage d'ILM de mémoire.
C'était un soft de montage vidéo en fait, ouais, qui a servi dans beaucoup de films. Je sais que dans l'article, ils mettent une série de films qui ont été utilisés. Hein, pour faire ça,
c'est un peu plus intéressant. De Jurassic Park ou de Star Wars ou trucs comme ça, mais.
Des tout petits trucs,
je sais plus, ouais, des micro-trucs, quoi. Et je sais pas si c'était Jurassic Park ou Star Wars, mais en tout cas, voilà, c'est un truc assez efficace et qui avait été annoncé il y a un moment déjà, il y a un paquet d'années, qui allait être mis en open source et ainsi de suite. Puis en fait, c'est un peu l'arlésienne de l'open source. Et ce que je trouve intéressant dans l'histoire, c'est quand il y a quelqu'un donc, qui travaille sur Lightwork chez son éditeur actuel, que j'ai oublié, vous irez voir dans le lien. Qui dit le problème qu'on avait, c'est que on sentait pas à l'aise avec notre code, il n'était pas assez propre pour le mettre en open source. Après c'est peut-être une manière de maquiller le fait qu'ils utilisaient peut-être des trucs proprios là-dedans pour lesquels ils avaient peut-être pas la licence correctement. Enfin, on va savoir. Je vais pas leur faire un procès, mais tu sais jamais trop tant que tu n'es pas open source en fait quelque part. Mais après, y a cette espèce d'illusion pour qu'un truc devienne open source au départ, il devrait être absolument parfait pour être relivré. Et ça m'a fait un peu résonner avec l'histoire de, sans rentrer dans le côté politique de la chose, de l'histoire de Stop Covid où tout le monde s'est jeté sur le code qui avait été mis en bout d'un open source en faisant la critique du truc comme s'il avait été conçu dès le départ en open source, ce qui n'était pas le cas. Et je pense que souvent, quand tu n'as pas la dynamique communautaire au départ ou le fait d'être inspecté par des tiers, tu prends des raccourcis que tu ne prendrais pas par ailleurs. Et il y a une espèce de honte comme ça à relivrer le code ou à... qui n'est pas bonne non plus pour la dynamique open source, d'aller pointer le doigt en disant « Ouais, t'as vu ton truc, là, c'est nul. »
Ouais, ça ne donnait pas envie de participer à des projets comme ça pour être livré à la vindicte populaire du développeur qui veut de la viande et qui veut taper sur les gens.
Surtout quand c'est très visible en même temps, politiquement, avec beaucoup d'enjeux et tout. C'était sans doute... On peut discuter sur la faisabilité et tout, mais je veux dire, c'est pas évident d'être comme ça à mise à nu. On fait tous des hacks dégueulasses à un moment donné ou à un autre. Hein. Les voir exposés d'un seul coup, alors qu'il y a... c'était pas ton intention de départ, c'est spécial. Et là, quand tu vois que c'est un vraiment gros éditeur, ils avaient même mis ils voulaient vraiment nettoyer les choses pour que ce soit nickel. En gros, ils étaient en train de dire, on va open sourcer la prochaine version, finalement, qui sera parfaite. Sauf que ça n'arrive jamais, ils n'ont jamais le temps. Et puis, de toute manière, je pense que le focus de leur boîte est de produire la version pas open source parfaite pour la vendre aux clients. Donc, il faut à un moment donné comprendre qu'ils n'auront pas ce focus-là. Quoi. Donc, c'était une allégorie intéressante.
Le seul code source parfait sans bug, c'est quand il n'y a pas de code source. Hein.
C'est ça. C'est le userless.
Plus que le no code ou le
c'est ça.
Ou le low code, c'est le userless. Si t'as pas de user, en même temps, t'as pas de produit, c'est réglé.
Ouais, mais écoute, t'as pas de bug.
Pas d'usage.
On passe à un logiciel qui a beaucoup de users. Nous passons à la release de Git 2.28.
Ah, on est beaucoup dans le politique, là, du coup, dans ces indirectement. Non, bah, c'est la release. Non, bien sûr. Bah, là, celle qui était mise en avant, mais c'est pas forcément pour tout le monde la plus intéressante, mais c'est celle qui était la plus. Enfin, qui peut amener à la discussion, en tout cas. C'était celle qui amène justement le paramétrage, enfin, le début du paramètre, du fait de pouvoir paramétrer la branche principale qui s'appelle.
Le nom de la branche principale,
voilà. Parce qu'ils ont encore pas mal de trucs qui sont hardcodés, des optimisations, il y a des choses qui doivent être détricotées progressivement. Et donc, la version 2.28 sera la première étape vers ça, mais ne permettra pas de le faire complètement. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, globalement, par défaut, ça sera toujours en interne, mais on pourra le renommer. Et à terme, ça pourra être fait même après le premier init, en fait, finalement.
Ils vont décrocher le truc et mettre un label, ouais. Et le label, tu mettras ce que tu veux devant.
C'est ça. Donc, ils sont en train de détricoter toute leur chaîne magique, tout leur hardcodage, donc il y a du boulot, parce que c'est un projet qui a un peu d'histoire, maintenant, qui a beaucoup bougé, et qui est beaucoup utilisé, donc l'impact, il est un peu important, très léger, avec beaucoup de clients variés, donc.
Mais c'est bien qu'ils le fassent.
Donc, ça fera pas de mal de toute manière. Et est-ce que ça a amené d'intéressant? Alors, ça, par contre, j'ai pas retrouvé des gens qui parlaient justement du fait que il pourrait y avoir même plus de souplesse sur cette espèce de dynamique où il y a qu'un master, ça pourrait augurer des choses assez curieuses.
Ouais, ça a l'air chelou dont tu parles, va falloir creuser. Mm-hmm.
On en profite pour rappeler, par souci d'équité, qu'il y a Git et il y a aussi Mercurial que nous soutenons fortement chez Clever Club puisque nous hostons. Heptapod.host qui est un fork de GitLab pour supporter Mercurial. Donc, s'il y a encore des users de Mercurial qui nous écoutent, voilà, on ne vous abandonne pas.
Et il y avait Master dans Mercurial ?
Je ne sais pas.
J'ai pas utilisé, moi, personnellement.
Je n'en ai aucune idée, je ne me rappelle plus.
C'est pas Tron que dans Mercurial ?
Ouais, je crois que c'est Tron. Ouais, peut-être comme dans SVN.
Dans SVN, il me semble.
Et il y a plein de notions autres que branches. Ça a pas mal évolué, Mercurial, en termes de complexité, à la fois en termes de faisabilité, du coup. Tu as une notion de topic qui est un peu plus légère que la notion de branche, qui est sympa aussi. Bref, je vous mettrai le lien dans les show notes. Et on va terminer, à moins que, Nicolas, tu puisses nous dire si vous utilisez autre chose que Git ou Mercurial chez Criteo. Peut-être que, comme il y a beaucoup de Microsoft, vous utilisez des...
C'est beaucoup Git maintenant,
de chez Microsoft aussi.
Alors, faut peut-être pas non plus déconner sur la faisabilité. Non. Alors là, la réponse, c'est simple. On est Git à tous les étages. On a la CI de tous les langages qu'on utilise, qui est quand même beaucoup basée sur Gradle aujourd'hui, en complément. Mais non, on utilise des trucs qui à l'échelle masse. Enfin, quand tu as 24 millions de lignes de code dans une base de code en C#, Java, Scala, Python, maintenant tu utilises Git parce que c'est un très bon dénominateur commun pour piloter tous ces langages-là. Après, il peut y avoir des spécificités à droite, à gauche, mais non, on n'a pas de choses. Sur les solutions Microsoft de gestion de source et de... C'est pas fait pour des entreprises comme nous. C'est pas fait pour des projets tels que les nôtres. Quoi. Et pourtant, Dieu sait qu'on travaille très bien la main dans la main avec Microsoft sur plein de sujets. Mais sur ça, dans la relation même, tu vois, commerciale, sur les outils, tout ça, c'est des choses qu'ils n'ont jamais trop.
Ils mettent quand même beaucoup en avant Git et GitHub maintenant, hein, de toute manière.
Donc, depuis le rachat, oui, c'est l'histoire.
Actuellement.
Hein, même déjà avant, ils avaient commencé quand même à switcher pas mal vers Git aussi pour les nouveaux projets au moins, quoi.
Ouais, enfin maintenant, on peut, comme on dit dans le rugby, les mouches ont changé d'âne de façon assez franche, quoi.
C'est clair.
À le rugby.
Ok, et on va passer au dernier lien de la semaine avec The Rise and Fall of Flash. Flash, pas Gordon, ni Flash, celui qui va vite, mais Flash, le Flash Player.
Une petite histoire au coin du feu.
Flash Player et puis tout ce qui va avec, parce que justement, l'article va vraiment du début jusqu'à la fin. Et donc au début, c'était plus un outil de dessin et l'animation n'était même pas là dès le début, je crois, si je ne m'abuse.
C'est vrai.
Et ça s'appelait Smart Sketch au départ.
Waouh.
Dessin vectoriel.
Tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, là.
Mais non, et même, enfin, justement, c'est moi qui ai posté le lien, mais j'ai plus de 20 ans, mais j'ai connu la partie déjà où c'était bien populaire et tout. Et ça, peut-être qu'au tout départ, ça s'appelait encore Macromedia Flash, tu ne deviens pas encore Adobe au tout départ.
Oui, tout à fait. Ouais, c'était Macromedia Flash.
Mais, Mais ça fait un petit moment maintenant que c'est Adobe quand même. Ouais. Et puis, j'ai surtout connu le déclin. Quoi. En fait, en tant que dev, en tout cas, j'ai surtout connu le déclin.
Alors moi, je peux raconter l'histoire que j'ai perso avec Flash, où j'ai connu l'autre phase, l'autre bout de la phase. Moi, je faisais partie d'une société qui s'appelait SNV pour Société Numérisation de Ville en 99-2000, en gros. Et on avait développé pour notre client Page Jaune un tout petit module de carto en Flash à l'époque où transférer des bitmaps pour faire de la carto dans les tuyaux, c'était pas très joli. Et donc là, tu venais avec un format vectoriel pour faire de la carte et tu avais une qualité de rendu, en particulier sur l'aliasing qui a toujours été le truc invraisemblable du client Macromedia Flash, qui était d'une qualité invraisemblable à l'époque et qui a tenu la dragée haute pendant très très longtemps. Et c'est ça qui a fait que cette boîte-là est devenue à récupérer le projet MAPI, où on a transformé le moteur pour passer d'une carto à l'époque. C'était génial. Aujourd'hui, tu dis ça, tu regardes avec le passé, tu dis mais non, l'histoire, c'était pas du tout dans le sens de l'histoire. Si, si, à l'époque, c'était dans le sens de l'histoire, de passer d'une carto bitmap raster lourde, donc tu pouvais pas faire tout ce que tu voulais, à du vecteur qui était beaucoup plus libre et beaucoup plus joli. C'était la grande avancée. Et puis, la grande avancée de la phase 10 ans plus tard, ça a été de sortir Flash pour tous les problèmes qu'on connaît de cette techno-là et tout ça, et de passer dans un truc qui est plus congruent à la façon dont était fait OpenStreetMap, Google Maps ou tous les services de ce truc-là.
Avec et Tiles.
Et Tiles, ouais, tout à fait, exactement. Voilà. Mais ça, ça n'existait pas à l'époque. Faut non, imaginer, bah enfin, le monde avait changé entre les deux.
Et ça donc, a été moi, tué j'ai... par le WAP, en fait, ce que tu nous dis. Là.
Et oui, non, mais c'est ça, c'est exactement à la même époque. Et donc moi, j'ai plus eu de l'attachement à Flash en disant genre c'est génial et on va faire des projets incroyables avec. Et j'ai pas connu la phase où ça s'est détricoté parce que j'étais plus dans cet univers-là. Et je l'ai vécu comme un utilisateur, pas comme un contributeur. Quoi. Donc quand t'as mis le sujet dans le à l'ordre du jour, j'ai même fait genre ouais moi je le Rise ouais je vois bien et je suis capable d'expliquer pourquoi c'était bien quoi, même si effectivement je sais que c'est bien qu'on en soit sorti.
C'est-à-dire qu'à une époque il aurait pu finir régulièrement dans la partie sécu de ce podcast quoi. C'est
oh, je pense qu'il peut toujours encore
ah, bah alors encore plus maintenant oui.
Ah, il ne peut plus qu'être à part là.
Ouais, c'est ça le problème.
Non, mais depuis que Chrome a commencé à le désactiver par défaut, a pu l'installer et tout ça, on est vraiment sur la longue taille du problème.
Et Apple aussi, la fin vraiment officielle, du coup, c'est à la fin de l'année, c'est le 31 décembre exactement que
Adobe le passage à Python 3, ça.
La fin des updates de Flash.
Moi, je sais que je suis passé par beaucoup d'enthousiasme et déception là-dessus parce que, comment dire, il y avait plein de choses très enthousiasmantes dans la techno. Le gros inconvénient qu'elle avait, c'est qu'en fait, elle empêchait le travail sur les standards web d'avancer sur ce sujet-là. Parce qu'elle est, quoi qu'il arrive, elle était toujours en avance de phase sur ce qui se faisait dans les standards. Du coup, elle forçait personne vraiment à bosser dessus. Je généralise beaucoup en disant quoi qu'il arrive. Parce que ça a basculé. Et pendant très longtemps, ça a fait un freeze, quoi, pendant longtemps.
Est-ce que ça a vraiment changé? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qui est décrié par d'autres qui font des navigateurs, ce que fait Google dans Chrome, à être toujours en avance, à sortir des trucs pas toujours super secs et à être dans l'innovation permanente pour garder la dragée haute, on n'est pas dans le même genre, tu vois, de…
Probablement. Ça pose le même problème. Mais encore une fois, quand tu as des petits spikes, entre guillemets, qui permettent l'innovation d'être un peu en avance, ça va. Quand ça devient le seul moyen de faire du vectoriel sur du web, bah, du coup, il n'y a rien d'autre qui avance. Bah, et le problème avec Chrome actuellement est plus ou moins du même acabit. Quand il y a certaines choses que tu peux faire qu'avec… On n'en est plus au même niveau. Hein. Mais disons que si, quand par exemple, tu vois beaucoup de providers de conférences, de vidéoconférences, où tu te rends compte que ça ne marche plus que dans Chrome ou Chromium ou Edge Chromium et pas dans d'autres, bah, tu te dis que finalement, l'innovation sur des systèmes un peu plus… universel de vidéoconferencing, c'est pas pour tout de suite. Quoi.
Sachant que ça ne marche que parce qu'ils possèdent YouTube et quand YouTube fait le changement, tout le monde est obligé
de suivre.
C'est une espèce de conglomérat d'intérêt qui fait que ça marche.
Et qu'ils ont une très grosse part de marché et qu'ils peuvent se permettre de lancer des trucs comme ça.
Ouais, bah, c'était ce que faisait Flash
à l'époque. Beaucoup de RD aussi.
Bah, ouais. Ouais.
Bon, après, Flash, les problèmes de sécu, ça vient aussi de l'encodage. Comment type longueur valeur qu'il y avait au bit près dans les fichiers, où ça, c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi. Et chez Google, ils ont quand même des gens qui font pas, c'est pas les mêmes gens, c'est plus la même époque et ils font quand même des erreurs. Enfin, ils font pas des erreurs de cette classe-là, quoi.
Il y avait beaucoup, comme avec Java dans le browser, que ce soit en JNLP ou machin, le switch entre les sandbox qui fait qu'à un moment donné,
À la frontière,
là, tu as des perméabilités où ça pète de partout, ça part, ça leak. Ça...
C'est clair.
Après, est-ce que c'est le genre de truc qui va arriver dans le browser? Parce que c'est pareil, le nombre de permissions que le browser a eu, c'est pas mal ouvert aussi au fur et à mesure.
CF, un des numéros précédents de messages à caractère informatique.
Absolument. Est-ce que c'était seulement la partie runtime qui a drivé ce changement, ou est-ce que c'était aussi la partie tooling? Parce que j'ai quand même l'impression que c'était essentiellement les graphistes qui bossaient avec les outils Adobe qui, du coup, faisaient exporter du Flash. Alors que quand tout le monde s'est mis à faire du Canvas, eux, ils n'ont pas fait et du coup, ils sont restés…
Je sais pas, parce qu'il y a eu un moment, quand il y a eu Flex, il y a eu beaucoup de push là-dessus. Donc, il y a un push qui a été aussi récupéré côté Silverlight, qui essayait de faire la même chose aussi et qui, du coup, a bouffé une partie par marché en entreprise notamment. Mais il y avait des outils qui étaient vraiment intéressants, en plus même des démarches, des frameworks qui s'open sourçaient pour partie, qui étaient pas mal, mais ça n'a pas accroché et ça s'est mis en parallèle du coup d'une évolution du côté web pur, donc les départs, les prémices des HTML5 et tout ça, où finalement ça devenait plus léger de faire des applis web, quoi.
Et tu avais Adobe Air qui était un peu l'ancêtre d'Electron maintenant, qui était ton flash player dans le client. Où...
Ça nous rajeunit pas tout ça.
Alors j'avais fait un client lourd avec Adobe Air pour ma boîte de l'époque.
Et ben,
ouais. Nos félicitations.
Ah, pour le coup, moi je ne sais pas dire.
C'était bien lourd.
Je ne sais pas répondre à ta question sur l'outillage, est-ce que c'était réservé, puisque moi, dans le contexte MAPI ou dans la boîte d'AP où j'ai refait un peu des choses dans ce truc-là. Où j'ai participé à des choses de flash généré, on avait notre moteur nous-mêmes qui générait du flash, de la spec. On avait réimplémenté un truc qui générait la spec pour être plus rapide, plus embeddable en C++, enfin avec d'autres propriétés qu'effectivement tu faisais pas. Enfin, il n'y avait pas quelqu'un qui traçait les cartes à la main à chaque fois, quelqu'un cliquait pour avoir un plan dans l'outil de Macromedia, je te confirme.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que pour la plupart des gens, c'était pas un objectif atteignable facilement, et que en fait finalement Flash progressivement a muté vers le même modèle que les autres outils d'Adobe. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très high-end et très orienté vers des créatifs et des graphistes.
Ouais,
ils n'ont jamais vraiment réussi à refaire revenir le modèle vers des développeurs, en fait. À part à franche congrue, quoi. Je veux dire, la parenthèse Flex, qui a généré de l'enthousiasme chez certains.
Enfin, ça a
c'est
été
jamais. Ouais, ça a fait. Bah, c'était, mais pendant un an ou deux, c'était intense et après, plus rien.
C'est ça.
Bah, t'as eu Flex, Silverlight, JavaFX, tous morts.
Oh, il y en a qui te diront JavaFX.
Y a une ou deux tracks JavaFX à chaque fois qu'il y a, comment ça s'appelle maintenant, ce que tu n'appelles plus Java One, Oracle Code, à chaque fois qu'il y a la grosse messe.
Mais déjà tout à l'heure, on parlait de curiosité. Moi, je vais voir quand même de temps en temps ces présentations-là pour pas. Ça bouge, c'est vraiment chouette. Ils font vraiment des trucs bien avec. C'est vraiment pas mal. C'est pas acheté forcément. Pour certains use cases, tu sens bien que ça ne va pas être le truc qui va tout exploser maintenant. Il n'y a plus tellement de soutien, de gros soutien derrière. Mais ça fait vraiment des choses bien. Je pense dans certains use cases, ça peut être pas mal. Franchement, ça fait des trucs très, très chouettes.
Okay, donc, en fait, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est mieux que tout ce que tu peux faire en JS maintenant,
quoi. Disons qu'entre ça et Electron, c'est quand même pas tout à fait pareil, quoi, en termes de sécurité, notamment.
Ouais, moi, je le vois en termes de management d'équipe. Trouver des gens qui savent faire, ça devient un challenge.
C'est ça la grosse difficulté.
Alors que trouver des gens qui font du JavaScript et de l'animation sur une page web, on commence à avoir un certain
charge. Il y en a un peu plus.
C'est envisageable, on va dire.
Yep. OK. On doit être à pas loin d'une heure. Du coup, on va passer au choix musical de la semaine. Je suis de 1 à 5. Pierre-Antoine, Grégoire, vous êtes de 6 à 10. Nicolas, tu es de 11 à 15. Et Alex, tu es de 16 à 20. Et de toute façon, comme Nicolas, c'est l'invité, on mettra sa musique aussi. Et de toute façon, j'ai fait 11.
Oh non, ça tombe bien. Pour ma pomme.
C'est pour toi. Alors, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que c'est ?
Alors, pour aller contre les préjugés de barbu, tech, machin, ça, j'ai pas sorti du métal que j'écoute quand même beaucoup, ou du heavy, et donc je suis allé dans les autres trucs que j'aime bien, à savoir de l'électro, des fois soft, et là, c'est pas soft, c'est Infected Mushroom. Alors le titre exact, c'était Army of Mushroom, c'est l'un de leurs albums, et en particulier le premier titre pour quand on est dans une session de code ou debugging et tout ça. Moi, je trouve que j'aime bien travailler avec ce genre de musique de temps en temps.
Right. Eh bien, Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir joué le jeu.
Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était toujours top de parler avec vous.
Ouais, c'est un plaisir de t'avoir. Merci à vous, chers auditeurs, chers chroniqueurs, et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci, ciao.
Salut.
Ciao. Bye bye.